chapitre 2, versets 13 à 23, il est écrit ce qui suit.
Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, en voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès de mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Et Joseph s'éleva et prit les petits enfants et sa mère, ayant appris Carcharus, Carcharus Hérode, son père, pardon, mais a appris Carcharus régnait sur Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen, parole du Seigneur.
Amen.
Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne ce matin afin de vouloir conduire la méditation d'aujourd'hui. Et nous avons comme thème Dieu veille sur son plan de salut de peuple et nous invite à la sagesse et au discernement. Dieu veille sur son plan de salut de peuple et nous invite à la sagesse et au discernement. Le texte que nous avons lu, nous connaissons bien ces passages et dans la méditation d'aujourd'hui, il sera question de voir l'attitude de roi et la foi agissante de Joseph. En troisième lieu, nous allons voir le modèle de la sagesse de ces femmes sages dans des situations critiques ou bien dans des situations de crise. Et enfin, nous allons conclure le message de ces jours. Et premièrement, parlons de roi et plus précisément du roi Hérode et Pharaon. Nous allons commencer par voir ce qui les unisse et ce qui les caractérise, le point qui converge. En fait, le roi Hérode est un roi, un faux roi des Juifs, puisqu'il ne devrait pas régner sur le Juif. Le roi Hérode est un roi tyran, cruel, et il était connu pour ça. Le roi Hérode, il faisait mourir tous ceux qui lui portaient ombrage dans son pouvoir. qu'il soit de sa famille ou parmi le peuple, lui ne pourrait pas laisser vivre quelqu'un qui lui portait ombrage. Donc, quelqu'un qui est contre son pouvoir serait mort quand il décide que cette personne puisse mourir. Et ce roi ici était insécurisé du fait que on lui a dit que il va naître et il est déjà écrit, puisque les scribes ont aussi approuvé ce que les mages avaient dit. Il est déjà né un roi des Juifs. Alors, quand il connaît qu'il est un faux roi des Juifs, il est dans la sécurité. Et il connaît que son pouvoir n'aura plus de fait, puisque un vrai roi des Juifs vient de naître. Et c'est pour cela qu'il va chercher à tout prix à tuer l'enfant, à tuer celui qui vient de naître, le vrai roi des Juifs. Quand nous voyons les caractéristiques du roi Pharaon, il est aussi un roi tyran, mais il est tyran vis-à-vis de ce peuple qu'il ne connaît pas bien, ceux qui étaient les esclaves, les Israélites. Il est prêt à faire mourir tout ce qui peut insécuriser son pouvoir. La Bible nous dit, là où nous avons lu en Exode chapitre 1, le verset 8, c'était le roi qui ne connaissait pas Joseph et qui a vu comment le peuple de Dieu continuait à se multiplier. Et il était contre cette multiplication et il disait ça crée déjà l'insécurité pour notre pouvoir et pour notre peuple. Et il est prêt à dire que tout a fait mal qui naîtra pour que ce peuple ne puisse pas être grand et ne puisse pas se lier à nos ennemis et renverser le pouvoir. Il faut que cet enfant mâle puisse mourir. Vous laisserez vivre tous ceux qui sont filles. Et ce roi ici ne savait pas que Dieu avait déjà promis de bénir son peuple et de le multiplier plus que le sable de la mer. Même s'il prenait une décision contre ce peuple qui était béni, il ne serait pas à mesure de contrecarrer la volonté de Dieu pour ce peuple. Alléluia. Et c'est pour cela que quand il va appeler les sages-femmes qui craignent Dieu n'ont pas obéi aux ordres du roi. Et même quand nous lisons avec ce que nous venons de lire à Matthieu, en voyant ce qu'a fait Hérode, lui qui voulait tuer un seul enfant qui venait de mourir, qui venait de naître puisqu'il sera roi, il organise le massacre de tous les enfants puisque effectivement il ne savait pas précisément qui est cet enfant-là. Mais il a eu à comprendre que depuis le temps que le mage maudit, cet enfant ne dépasserait pas 2 ans. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons comme si les mages étaient partis peut-être la nuit d'hier, et le lendemain, nous voyons Joseph qui a le songe pour qu'il s'enfuit, et après, nous voyons Hérode qui est en train de tuer les enfants. Jésus avait entre 1 année et quelques mois. C'est ça ce que Hérode a calculé. C'est pourquoi il a commencé à tuer les enfants qui ont en dessous, des enfants de 2 et en dessous de 2 ans. Il a bien calculé son temps. Et Jésus s'est enfui. Malgré qu'il y avait massacre, l'enfant Jésus n'était pas mort puisque Dieu veille sur son plan de salut des nations. Donc, que vous soyez tyran à n'importe quel niveau, et que vous soyez cruel et que vous organisez tout ce que vous voulez, quand Dieu veut sauver son peuple, il sauvera un seul qui est à mesure de renverser votre pouvoir. Alléluia. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Et je voulais tout simplement dire que bien que les hommes peuvent être cruels au point de massacrer tout, ils croient avoir massacré tous les enfants à Bethléem et donc il n'y aura plus ce roi-là. Dieu veillera toujours sur son plan de salut. Et en deuxième lieu, nous allons parler de Joseph. Joseph, lui, dans les livres de Matthieu, peut-être aussi dans d'autres synoptiques, je n'ai jamais entendu la parole que Joseph a dit. Partout, Joseph ne dit presque mot. Mais on voit que Joseph a obéi à la parole de Dieu et il a agi. Par exemple, si nous lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 24 à 25, Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Quand nous lisons à Matthieu chapitre 2, le verset 14, Joseph s'éleva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. En 2 chapitre 21 et 22, nous allons trouver Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et s'en alla dans le pays d'Israël. Mais, et a appris tout ce qui était, il était aussi divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée. Donc, on peut voir partout Joseph en action, mais on ne voit pas Joseph en train de dire quelque chose. Joseph est la personne que Dieu a utilisée pour protéger l'enfant Jésus. Alors que Dieu avait tout le pouvoir de faire un miracle pour protéger ce Jésus-là contre le massacre, mais Dieu a voulu être en relation avec Joseph pour que tout ce qui avait été dit puisse s'accomplir, mais aussi pour que l'homme participe à ce que Dieu est en train d'organiser. Dieu ne fait pas quelque chose sans nous. Dieu le fait toujours avec nous les hommes. Alléluia. Ne croyons pas qu'un jour Dieu viendra du ciel pour changer ce pays Congo. Dieu travaillera toujours avec les hommes. Mais il travaillera avec les hommes qui seront attentifs à sa parole, qui seront prêts à obéir à sa parole, ces hommes qui seront prêts à agir. C'est ces hommes-là dont Dieu a besoin pour que ce projet du salut puisse être effectif. Et ici, Joseph n'avait rien à craindre, puisque celui qui devrait mourir, c'était son fils. C'était un enfant. D'ailleurs, il n'a pas son sang, on peut le dire. Joseph pourrait avoir beaucoup d'excuses et dire à Dieu, « Mais Seigneur, tu es capable, toi qui as fait une naissance à ma femme et qui n'avait point d'homme, tu es capable de les garder ici. Tu peux embrayer toute l'armée d'Hérode et il faut faire mourir tous les autres, sauf ses fils. » Joseph pourrait se dire, mais c'est la nuit, comment je veux me réveiller et partir cette nuit-ci? Et Dieu faisait une pression sur Joseph, comme si Dieu ne savait pas bien avant que, bon, Joseph, il y aura ceci, alors tu peux partir ce matin, hein, puisque ça va se faire demain matin. Mais tu pars aujourd'hui d'abord. Mais Dieu lui vient en songe, la nuit, et Joseph prend la femme cette même nuit-là. Alléluia. Amen. Joseph montre qu'il a accepté ce que Dieu lui a dit, il a attendu la voix de Dieu, il a obéi et il est parti la même nuit. Il a agi si vite puisqu'il voulait aussi obéir à son Dieu. Il voulait obéir à celui qui l'a créé, il voulait obéir pour que, effectivement, lui qui ne savait pas le plan de Dieu, mais il a été le canal pour sauver et pour aider à ce qu'un jour le peuple soit sauvé par ce fils-là. Dieu peut vouloir t'utiliser pour le salut de tel et de tel autre, puisque cette personne est importante dans la famille, cette personne est importante dans son église, cette personne est importante dans le pays. Mais il y a toujours des excuses. Les gens ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Et ils peuvent dire, mais Seigneur, je pourrais bien le faire, je pourrais bien évangéliser cette personne, mais il est trop orgueilleux. Tu sais, peut-être quand le pasteur va évangéliser, quand le pasteur sera là pour la prédication, il peut comprendre, il peut écouter, tu peux utiliser divers moyens pour que cette personne arrive au salut. Mais c'est toi à qui Dieu a dit, et c'est toi qui devrais aller trop vite pour le lui dire, pour que cette personne ne soit pas mort dans les péchés. Mais tu attends toujours. Mais tu donnes toujours des excuses. Il y a de cela que peut-être Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre pour sauver la vie de tel. Peut-être il est en crise, peut-être il est en chômage. Mais tu utilises toujours des astuces pour dire à Dieu, tu peux utiliser même d'autres personnes. Cette personne mourra devant vous. Cette personne, tu risques d'être un spectateur de sa mort, puisque tout simplement tu n'as pas agi en temps. Soyons comme Joseph donc, qui est prêt, qui écoute la voix de Dieu et qui obéit à cette voix et qui agit. Sans que personne ne lui force, c'est ça qui est une seconde interpellation, sans qu'il y ait quoi qui pourrait le pousser à bien le faire et à être trop vite. Joseph est pressé d'accomplir la volonté de Dieu. Quand on lui dit que c'est immédiat, il le fait immédiatement. Il n'attend pas. Et troisièmement, je voulais, avant de passer à ce troisième point, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi Dieu n'a pas voulu assez que... Pourquoi Dieu n'a pas voulu protéger tous ses autres enfants, mais il a laissé échapper Jésus et tous les autres sont morts, comme il est ici écrit que Rachel a refusé d'être consolée puisqu'elle voyait ses enfants déjà morts. Et pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle pour que ses enfants ne soient pas tués par Hérode. En fait, nous les hommes, nous sommes trop méchants. Et notre méchanceté nous amène à faire des choses que nous croyons que ça peut nous sécuriser. Comme je disais que Hérode était dans les sécurités de son pouvoir. Et il a pensé qu'en éliminant Jésus, en éliminant les enfants, il n'y aura plus quelqu'un qui le dérangerait. Mais ici, une chose que nous devons comprendre, qui que nous soyons, nous ne pouvons... Et quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais contrecarrer le plan de Dieu. Et c'est ça la leçon qui est ici. Ce n'est pas à dire que Dieu voulait assez que toi aussi, quand tu seras méchant, tu puisses tuer autant. Quand toi aussi tu seras roi et que tu es insécurisé, il faut que tu puisses massacrer. Non, Dieu veut nous enseigner tout simplement que l'homme, dans sa folie, ne sera pas à mesure de contrecarrer son plan. Ce que Dieu a déjà béni est déjà béni. Tu n'es pas à mesure, même si Hérode l'a fait, même si tout ce roi que nous disons comme Pharaon a fait et tous les autres que nous voyons faire, ils ne seront pas à mesure de contrecarrer le plan du salut de Dieu. Dieu sauvera toujours son peuple. Alléluia. Dieu veut que nous puissions arriver à ce point de savoir que nous ne sommes pas à mesure de le contrecarrer. Nous ne sommes pas à mesure de barrer la route au projet que Dieu a déjà mis en route. Alors, le troisième point parle de les sages-femmes comme modèle de la sagesse dans une situation de crise. Là où nous avons lu dans Exode, la parole de Dieu nous montre que les sages-femmes, au verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi. Elles laissèrent vivre les enfants. » Et le roi les a interpellés et dit, pourquoi vous n'avez pas fait cela? Au verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Et la Bible continue au verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint trop nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. C'est dans une situation de crise. Ces femmes sont... ici, on a dit qu'elles étaient des femmes des Hébreux. Les sages-femmes des Hébreux. Est-ce qu'elles étaient hébreux ou pas? On peut dire oui par rapport à ce qui est dit. C'était les Égyptiennes ne pourraient pas faire accoucher les Hébreux, les femmes hébreux. Mais aussi par leur nom, on pourrait dire, mais c'est comme si ce sont des Égyptiennes en quelque sorte, puisque ce nom n'est pas hébraïque. Alors, si ce nom n'est pas hébreu ou bien ce nom n'est pas confortable, mais tout ce que la Bible nous dit, c'est que le roi d'Égypte avait appelé les sages-femmes des Hébreux, qu'ils soient égyptiens ou qu'elles soient égyptiennes ou hébreux, ce sont des femmes sages des Hébreux. Alors, ce qui est à comprendre ici, dans cette situation de crise, le roi fou, dans sa folie, il voit que je peux contrecarrer ce peuple de se multiplier. Alors que Dieu avait déjà béni ce peuple. Dieu avait déjà promis à leur grand-père et à leurs parents que je vous multiplierai, je vous donnerai une descendance qui est comme le sable, plus nombreuse que le sable de la mer. Et cette descendance est en train de se multiplier et le roi, dans sa folie, il croit qu'il peut arrêter ce que Dieu a planifié. Il ne savait rien de ça. Et les sages-femmes qui craignaient Dieu n'ont pas obéi à ce roi. Les sages-femmes ont laissé vivre ses enfants. Quand le roi les appelle, elles disent, vraiment, nous sommes désolés au roi, puisque les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elle accouche avant que la sage-femme n'arrive. Or, si vous lisez en fait ce qui est là, on dit que c'est quand la femme est sur le siège et que vous constatez que cet enfant est mal, vous le ferez mourir. Même si elles accouchaient avant, c'est ça ce qu'on pourrait dire, même si elles accouchaient avant votre arrivée, mais vous avez déjà constaté qu'il est un homme. Vous n'allez pas le constater quand elle est encore dans le sein de sa mère. Il n'y avait pas de gynéco pour savoir. Elle va enfanter un garçon ou une fille. Donc, c'est comme si ces sages-femmes n'ont pas bien répondu à la question du roi Pharaon. Mais la Bible nous montre que le Pharaon avait tellement confiance à ses femmes, le Pharaon ne les avait pas punis, le Pharaon a considéré que leur réponse était tellement vraie et véridique, il ne s'est pas posé beaucoup de questions, et Dieu les a protégées, donc Dieu a protégé ses femmes devant Pharaon. Mais ce qui arrive aussi plus tard, c'est que Dieu a béni ses femmes sages, et il a fait prospérer leur maison. Et les gens se poseraient la question de savoir, mais ces femmes sages ont menti. Bon, disons oui ou non. Mais c'est aussi peut-être vrai. Les femmes du village, comme je peux m'imaginer que les esclaves étaient considérés comme les femmes du village, ont beaucoup de trucs qu'elles font pour affronter sans beaucoup de tralala. Elles peuvent venir du marché, elles peuvent venir du champ, et mettre au monde la soirée. Elles ont beaucoup de force que les femmes qui sont à Île-Africa. Je ne dis pas à Ville. Que les femmes qui sont à Simac et partout ailleurs. Ouais. Mais ça peut être une vérité. Mais même si c'était une vérité, peut-être disons que 70% de ces femmes mettaient au monde facilement, sans l'intervention de la sage-femme. Mais les 30%, vous pourriez tirer quand même hein, quelques enfants. Il ne fallait pas dire au roi, vraiment, il y avait 0% de chance pour tuer une, ou bien un enfant. Mais Dieu les a protégés contre tout ça. Mais en disant ça, je voulais dire, c'est dans une situation de crise et que Dieu les a donné une sagesse. Les femmes n'ont pas préparé la réponse qu'ils donneraient au roi. Quand nous lisons la Bible, ils ne s'étaient pas consultés pour dire quand Pharaon va nous demander, puisque nous n'avons pas fait ce qu'il nous a dit, quand Pharaon va nous demander, nous lui dirons ceci ou cela. Mais c'est devant Pharaon que la réponse brusque arrive par la sagesse divine. Elles ont été à mesure de désobéir au roi et au décret du roi, puisque tout simplement elles obéissaient à qui ? À Dieu. Et cela, nous allons le voir dans beaucoup de situations de notre vie, même dans l'histoire de la Bible. Les gens comme Daniel et ses compagnons, ils ne sont pas à mesure d'obéir au roi. Quand ils désobéissent, Dieu le protège, Dieu leur fait du bien. Alors, je vais dire, est-ce que ces gens-là ont péché ou pas? Et ici, quand nous lisons dans Actes chapitre 4, le verset 19, c'est Pierre qui est en train de dire, puisqu'on est en train de les interdire de parler de Jésus et de cette nouvelle-là qui sont en train de propager. Et Pierre va dire, jugez-les par vous-même. Est-il vrai que nous puissions vous obéir, vous, les hommes, que d'obéir à Dieu? Dieu est au-dessus de vous. Et s'il nous a donné une mission, nous n'avons qu'à l'accomplir. Vous êtes des hommes, lui, il est Dieu. À qui devons-nous obéir? Ce n'est qu'à Dieu. Donc ce que vous nous dites là, ça n'a pas d'effet sur notre vie et ça ne va rien nous faire. Nous continuerons à obéir à qui? À Dieu. Donc je veux dire que la désobéissance ici et tout ce que nous pouvons dire, mensonge ou pas, c'est quelque chose qui amenait les gens à comprendre que quand tu obéis à Dieu, il y a parfois des lois que tu ne seras pas à mesure d'obéir dans le monde. Tu marcheras à contre-courant. Tu ne seras pas intimidé par les tyrans du roi. Tu ne seras pas intimidé par les cruels rois. Mais tu vas obéir à ton Dieu puisque tu sais qu'il est tout puissant. Il est capable et c'est lui qui t'a ordonné de faire telle ou telle autre chose. Alléluia. La désobéissance civile est-il permis pour les chrétiens? Je ne réponds pas. C'est à vous que je pose la question. La désobéissance civile a des lois qui ne respectent plus Dieu, a des lois qui sont à la compte de la volonté de Dieu et de ce que Dieu a déjà dit. Est-il permis pour les chrétiens ou pas? Je vais conclure ce message à 10 ans. La parole de Dieu ce matin nous interpelle à 3 niveaux. Il y a des tyrans au milieu de nous. C'est toute personne, le roi, je ne voulais pas dire tyran, le roi. Au milieu de nous, c'est toute personne qui a une autorité quelconque. Je ne voulais pas parler seulement de notre président et de tout ce que vous voyez, de gouverneur et du reste. Je veux parler de nous tous, chacun là où il est. Le Seigneur t'a donné une parcelle d'autorité, mais tu ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse émerger dans ton territoire, là où tu te trouves. Et quand tu vois quelqu'un émerger, tu es prêt à le faire mourir. Je veux dire aux tyrans que même si vous voulez faire mourir cette personne qui émerge, puisque Dieu l'a élevé, Dieu fera de miracles pour échapper, pour faire échapper cette personne. Tu peux tuer 1000, mais cette personne que tu as voulu qu'il ne puisse pas exister, existera, puisque c'est le plan de Dieu. N'ayez pas à votre idée d'être tyran. Puisque malgré vos projets, Dieu est au-dessus. Dieu contrôle tout. Tu ne seras pas à mesure de maudire celui qui est déjà béni par Dieu.
Amen.
Je ne sais pas celui qui te tyrannise. Je ne sais pas celui qui te met mal à l'aise. Il ne sera pas à mesure de te faire du mal. Tout ce qu'il fera, Dieu fera, c'est que tu sois en Égypte, tu reviennes, tu sois appelé Nazaréen, et à un certain moment, tu vas régner comme roi. Oui, Jésus s'est enfui en Égypte pour que s'accomplisse ce qui avait été dit, j'ai appelé mon fils de l'Égypte. Jésus est arrivé là, et quand Joseph arrive, il dit, il y a encore le fils du tyran qui règne. C'est horrible pour la femme. Il s'est allé à Nazareth. Jésus a été appelé Nazaréen puisque c'était déjà aussi dit. Le tyran là ne fera ce que vous puissiez marcher de gauche à droite pour qu'un jour vous puissiez venir là où vous êtes prédestiné à arriver. Donc ne vous gênez pas, ne soyez pas dans la tristesse et ne graissez pas des dents contre vos tyrans puisqu'ils ne vous feront rien. Ils massacreront tous les autres à côté de vous, mais vous, vous serez toujours victorieux. Je vais dire aussi aux tyrans qu'il serait mieux de s'inscrire dans les plans de Dieu. Les plans de Dieu est pour les saluts. Ne vous insécurisez pas, ne vous sentez pas insécurisé quand vous voyez l'autre qui émerge. Puisque vous n'émergerez pas seul, même si vous le voulez, il y a toujours d'autres qui seront là. Acceptez seulement que d'autres arrivent. Et peut-être que vous êtes là, comme c'est Hérode, vous n'êtes pas la personne digne. Acceptez que vous soyez remplacé par d'autres qui sont dignes. Ouais. Deuxièmement, je vais dire à tous ces gens que Dieu a donné la possibilité de protéger. Vous êtes des Joseph là où vous êtes. Vous n'êtes pas concerné par le massacre qui se fera à côté de vous. Vous n'êtes pas vraiment la personne qui serait troublée par la nouvelle du roi ou l'édit de ces tyrans-là. Mais Dieu vous invite aujourd'hui à être vraiment Joseph. Écoutez sa voix. Écoutez ce qu'il vous dit à propos de cet enfant qui est en train d'être malmené à vos côtés. Écoutez ce que le Seigneur vous dit à côté de cette personne qui souffre. Écoutez sa voix et obéissez à cette voix, agissez. Ne restez pas muet jusqu'à ce qu'on ne voit même pas ce que vous faites. Même si vous n'avez pas à dire, même si vous n'avez pas de mots qui seraient écrits quelque part, qu'on puisse écrire vos actes, qu'on puisse écrire vos actions. Cette personne a cru à Dieu, cette personne a foi à Dieu, puisque nous avons vu ce qu'il a fait. Joseph ne serait nulle part dans la Bible, mais ses actions laissent assez qu'on puisse parler de lui. Ayons la foi agissante. On ne dira pas que j'ai la foi, alors que mes actions montrent que je marche comme les gens qui n'ont pas la foi. Ce sont les actions de Joseph. Quand tout le monde est stable, Joseph s'enfuit en Égypte avec la faim. Quand tout le monde n'est pas gêné avec l'arrivée de ce deuxième roi, Hérode, le fils d'Hérode, lui il est gêné et il s'en va où c'est, à Nazareth. Protégez ces enfants qui sont sous vous, qui sont menacés. Peut-être ce sont ces enfants qui accompliraient le salut de notre peuple. Ce sont ces enfants qui sont sous vous qui accompliraient le salut du peuple ou bien de l'église demain ou après-demain, le salut de votre famille. Donc, nous avons à voir qui est la personne à côté de moi qui est menacée par telle ou telle autre autorité. Est-ce que Dieu me veut pour cette personne? Dieu veut à ce que tu puisses le protéger. Je veux assez que tu puisses être souple et agissante pour agir et pour intervenir plutôt au cas de cet enfant, au cas de cette personne qui est en train d'être menacée. Et Dieu te bénira comme il a béni ces sages-femmes. Enfin, je voulais assez que nous puissions comprendre que dans les moments d'insécurité, dans des situations de crise que nous traversons dans notre pays et partout où nous sommes, Dieu nous appelle à avoir la sagesse divine. Soyons attentifs et soyons réfléchis pour savoir ce qui est dit par nos supérieurs, ce qui est dit par les gens qui nous gouvernent. Est-ce la volonté de Dieu ou pas? Et que cette sagesse nous conduise à barricader le mal que le gouvernant voulait pour notre pays. Ne soyons pas prêts à livrer les gens à la mort. Ne soyons pas les instruments de ces gouvernants. Quand on dit, quand on lit dans Exode, on trouve que quand le roi Pharaon a vu que ce n'est plus possible que ça puisse se faire avec ces femmes sages, il a ordonné à ce que les autres puissent jeter les enfants dans le fleuve. Que ça se fasse avec d'autres, mais que ma sagesse et ta sagesse puissent aider à ce que les gens ne puissent pas mourir dans notre pays. Le mal ne puisse pas arriver, puisque Dieu nous a donné la sagesse et Dieu nous donnera ses bénédictions quand nous agirons sagement. Dieu fera prospérer nos projets quand nous aurons à agir avec sagesse et avec sa sagesse, bien sûr. Voyons comment nous pouvons, de notre mieux, faire pour que le mal ne puisse pas arriver dans notre pays, pour que le mal ne puisse pas arriver dans notre société. Je sais que nous avons tous attendu cette parole et chacun, Dieu peut lui parler de sa façon. Es-tu concerné par cette parole? Et si tu es concerné, tu vas justement simplement t'élever et demander la grâce de Dieu pour qu'il te fasse sage, pour que Dieu te fasse Joseph et que jamais dans ton cœur, il y ait le cœur d'Hérode. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Chacun prie pour soi. CPK et d'autres églises qui confessent ton nom. Seigneur, nous prions à ce que tu nous épargnes de tout ce qui peut être programmé et projeté contre nous. Que tu Contrecarre, Seigneur, le projet de ceux qui gouvernent trop mal notre pays, de ceux qui gouvernent très mal toutes les instances que là où nous travaillons et là où nous sommes, Seigneur. Nous prions à ce que tu bénisses chacun de nous. Toi qui nous invites à la sagesse dans ces situations difficiles, que tu bénisses tous ceux qui ont la sagesse pour bénir ton peuple et pour laisser vivre ton peuple. Comme tu as béni ces sages femmes, nous prions tes bénédictions pour chaque personne qui est en train d'œuvrer pour le bien-être de ton peuple dans ces pays, qui est en train d'œuvrer pour le bien-être de ton peuple dans ton église. Que ces Hérodes, ô roi, qui s'élèvent contre nous et qui ont des projets pour faire mourir, pour massacrer les gens, Seigneur, te trouve en train de faire de grands prodiges dans nos vies et en train de prospérer même là où ils ne sont pas. Puisque en ton temps, tu mettras un roi dont tu as besoin, tu mettras un roi que tu veux, Seigneur, puisque ton temps arrive. Nous prions que pour cette année 2018, tu nous donnes de la sagesse comme ces sages femmes. Que tu nous bénisses, ô Dieu. Que tu aides tout et chacun à être Joseph là où il est afin de protéger, afin d'être souple à agir, puisque Seigneur, les gens qui veulent à la vie des autres sont tellement nombreux et sont pressés pour accomplir leurs projets. Que tu nous aides à être souples, ô Père, et à agir sans que personne ne nous force d'agir, mais à être obéissants et obéissantes à ta parole. Seigneur Jésus, que cela nous caractérise tout au long de cette année 2018. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.
J'aurais souhaité à ce que nous continuions avec ces moments.
Comme nous venons de l'attendre dans la parole de Dieu, nous sommes appelés certainement à prier.